VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est midi à Brazzaville. La CPI devait décider aujourd'hui si elle abandonne ou non son procès pour crime contre l'humanité contre le vice-président kenyan William Ruto. Une décision inédite qui pourrait faire jurisprudence. C'est la première fois qu'une demande en vue d'un rejet des charges et d'un acquittement est déposée par la défense en cours de procès après la présentation par l'accusation des éléments à charge et avant que la défense ne prenne la parole. Le président sud-africain Jacob Zuma, lui, discrédité par la décision de justice qu'il a reconnue coupable de violation de la Constitution, fait face aujourd'hui au Parlement à une procédure de destitution déposée par l'opposition qui l'accuse d'être le cancer de la politique en Afrique du Sud. Sauf coup de théâtre, le chef de l'État sud-africain devrait cependant survivre à un vote son parti, le Congrès national africain, qu'il a officiellement soutenu dans cette nouvelle tempête, dispose d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. En République du Congo, retour au calme à Brazzaville après les échanges de tirs lundi entre la police et des individus armés qui, selon la déclaration du gouvernement, étaient des ex-miliciens ninja, des combattants d'une ancienne faction de guerre civile dite du Pool entre 1998 et 2003. Notre correspondant Ngoula Ngoussou à Brazzaville fait le point de la situation.
Jusqu'alors, on n'a pas un bilan, mais ce que l'on sait, c'est que le gouvernement a commencé à dresser un premier bilan concernant les pertes matérielles. Donc les commissariats qui ont été incendiés à Mayanga, à Makelekele, à Bakongo. Les sièges des communes de Bakongo et Makelekele également ont été incendiés par les assaillants. Selon les témoignages que nous avons recueillis, on sait qu'il y a des morts. Un jeune policier a été abattu donc dans la zone de Mafuta et un jeune civil qui serait mort d'une balle perdue.
Ngoula Ngoussou, correspondant de VOA Afrique à Brazzaville. L'ONU a prorogé fin mars le mandat de sa mission en République démocratique du Congo, la MONUSCO, d'un an. En outre, le Conseil de sécurité qui est passé outre la proposition du secrétaire général Ban Ki-moon d'une modeste réduction de 1 700 soldats de cette mission a appelé les autorités congolaises à organiser dans les délais des élections libres et crédibles. Pour une analyse de ces prises de position onusiennes, Timothée Donagmaï a joint ici à Washington l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines.
Le Conseil de sécurité ne doit pas parler des élections, mais ils ont dit qu'il faut absolument faire des élections selon la Constitution. C'est-à-dire qu'il faut avoir une élection présidentielle en novembre 2016. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'élection, comme nous avons peur maintenant qu'il n'y aura pas d'élection, les Nations Unies peuvent faire des sanctions contre le gouvernement de Kabila. Deuxièmement, comme vous venez de dire, ils ont refusé de réduire le nombre de casques bleus qui sont là pour protéger les gens dans le civil. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'élection, s'il y a toujours le glissement, il y a un danger de violence. Donc, il faut que les soldats des casques bleus restent là pour protéger les gens qui manifestent. Un troisième message, il y a un danger que s'il y a de violence, il y aura des réfugiés qui vont partir pour des autres pays, surtout l'Angola. Et les autres pays dans la région ont peur. Donc, ils ont encouragé le Conseil de sécurité de faire cette résolution. Donc, je dis à votre audience que c'est une résolution très importante. Ce n'est pas banal.
Sur quoi sont fondées les craintes que vous venez d'évoquer?
Vous vous rappelez peut-être quand président Kabila, en 2014, a annoncé qu'il y aura un référendum pour changer la Constitution. Mais ça a déclenché beaucoup de manifestations partout dans le pays. Il y avait des morts parce que la police et les soldats ont tiré sur les gens. Et président Kabila a décidé de ne pas faire un référendum pour changer la Constitution. Donc, ça montre qu'il y a des sentiments très importants, que les gens veulent que la Constitution soit faite, c'est-à-dire qu'il y aura des élections.
L'opposition de la RDC redoute que le président Kabila se maintienne au pouvoir au-delà de la fin de son mandat. Mais à ce jour, le président Kabila n'a pas dit qu'il sera candidat à la présidentielle.
la date limite, je crois que c'est le 20 décembre, quand son deuxième mandat est terminé. Il peut toujours dire, bon, mon mandat est terminé et le président annexé sera le président du Sénat. C'est toujours possible. Bien sûr, il n'a rien fait contre la Constitution jusqu'à maintenant, mais il faut préparer des élections. Et je crois qu'ils n'ont pas encore commencé à préparer. Et le président de la Commission sur les élections venait de dire récemment que ça va prendre un minimum de 15 mois. Nous sommes déjà en avril et 15 mois d'ici, c'est en 2017. Donc tout le monde croit que c'est une raison d'avoir peur. Il y aura un grand délai et que la vraie raison pour le délai, c'est que M. Kabila ne veut pas quitter la présidence.
L'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, c'est demain, le 6 avril, que le nouveau président Roch Kabore va boucler ses 100 jours au pouvoir. Il se trouve qu'à cette date, il sera toujours en France dans le cadre de sa première visite officielle. Il a donc saisi l'occasion de la clôture de la Semaine nationale de la culture pour faire le bilan de ses 100 jours au pouvoir. Le passage à une 5e République reste pour Marc Kabore la priorité.
La commission constitutionnelle va être mise en place bientôt. Et l'objectif de cette commission est de discuter des réformes, je dirais, politiques qui nous permettent de passer à une 5e République. Et je ne voudrais pas dépenser l'iguane dans l'eau. Ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que la limitation du mandat, c'est une question sur laquelle il est impossible de revenir. Ce que je voudrais dire également, c'est que la deuxième chambre qui apparaissait comme le Sénat est définitivement supprimée. Ce que je peux dire également, c'est que la tendance est à la réduction des pouvoirs du président du Faso pour que ce ne soit plus quelqu'un d'omniscient qui décide de tout et qui a autorité sur tout.
Le chef de l'État burkinabé. Au Tchad, à 5 jours de l'élection présidentielle du 10 avril prochain, le pouvoir continue à traquer les leaders de la société civile, hostile au 5e mandat du président sortant Idriss Déby Itno, un 5e porte-parole de la plateforme Ça suffit. Le docteur Albissati Saleh Lazam a été arrêté hier par la police. Cette situation amène les organisations de la société civile à durcir leur position. Elles ont maintenu donc leur marche pacifique de ce jour. L'Algérie a défendu son principe de non-intervention militaire hors de ses frontières dans un message au président Abdelaziz Bouteflika, au roi d'Arabie Salman avec qui les relations sont tendues sur le Yémen et le Liban. Le chef de l'État algérien a chargé son conseiller Taïeb Belaïz de porter ce message au roi d'Arabie qu'il a en même temps invité à se rendre en visite à Alger. La présidentielle américaine, le Wisconsin, vote ce mardi dans une primaire républicaine. Donald Trump a battu hier une campagne effrénée pour éviter une défaite face à Ted Cruz, donné favori. Morgan Guiriec.
Le Wisconsin n'accorde que 1,7% des délégués pour l'investiture républicaine. Selon les derniers sondages, Ted Cruz, sénateur ultra-conservateur du Texas, est en tête avec 40% contre 35% à Donald Trump. John Kasich, gouverneur de l'Ohio, est crédité d'environ 18%. Monsieur Cruz, héros du Tea Party, bénéficie du soutien du gouverneur Scott Walker, qui ratisse large dans les banlieues de Milwaukee, la plus grande ville du Wisconsin. Une victoire de Cruz ne va pas pour autant bouleverser la donne. Pour le moment, il a gagné 8 consultations et 466 délégués, alors que Trump s'est imposé dans 20 États, remportant 739 délégués. Pour décrocher l'investiture, il leur faudra atteindre 1237 délégués. Donald Trump peut se rassurer avec New York, son fief, qui vote le 19 avril et fournit une pluie de délégués. Il est aussi très populaire en Pennsylvanie, qui vote le 26 avril. Ce sera la dernière ligne droite en mai jusqu'aux primaires du 7 juin avec la Californie en prime.
Le prochain round de négociations sur la paix en Syrie, mené sous l'égide de l'ONU, commencera le 11 avril à Genève. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le porte-parole des Nations Unies, Ahmed Fawzi, lors d'un point de presse. Le précédent round de discussion a eu lieu du 14 au 24 mars à Genève et s'est terminé sans avancée concrète en raison de l'insistance du régime à discuter de grands principes. Selon la feuille de route but fixé par l'ONU, ces pourparlers doivent permettre la mise en place dans les 6 mois d'un organe de transition censé rédiger une nouvelle constitution et organiser des élections 18 mois.
Cœur de l'info sur VOA Afrique.